Vous écoutez, on lit pour vous.
Du lit d'hôpital aux ultramarathons. Un texte de Catherine Harvey-Pinard, paru le 5 juillet 2025 dans La Presse. Le 20 décembre 2017, aux alentours de midi, Maxime Dastou a percuté une déneigeuse de plein fouet sur l'autoroute 40. Embardé, trou noir, coma artificiel. Diagnostic, deux vertèbres du cou fracturées et traumatisme crânien. Les probabilités qu'il puisse un jour marcher de nouveau étaient infimes. Et pourtant, le samedi 5 juillet 2025, il a été sur la ligne de départ du Québec Mega Trail 80 km à Charlevoix. Quand il est sorti du coma, quelques jours après son accident, Maxime Dastou avait été opéré. Une opération délicate dont il aurait pu ressortir quadriplégique, nous dit-il au téléphone. Ses vertèbres du cou et de la tête avaient été fusionnées, soudées. J'ai beaucoup de chance juste de bouger en ce moment. À son réveil, Maxime avait été attaché afin d'éviter qu'il ne fasse une chute. Il ignorait qui il était et ne reconnaissait ni ses parents ni sa copine de l'époque. Le côté droit de son corps était paralysé. Il faisait du strabisme, ce qui l'empêchait de voir clair. Je pensais que j'étais dans les années 1980 et je ne suis même pas née dans les années 1980, raconte-t-il. Ce n'est que plusieurs jours plus tard que les choses ont commencé à se clarifier. Quand les médecins lui ont retiré son masque laryngé, Maxime a regardé son père. « Mon rêve, c'est de marcher à nouveau », lui a-t-il soufflé. Le père, qui venait d'apprendre que les probabilités de voir son fils marcher, voire se tenir debout avec un déambulateur ou avec une canne, étaient infimes. Mais Maxime vient d'une famille hyper positive. Il y croyait, et son père aussi. Quand il t'arrive une épreuve dans la vie, y croire, c'est déjà une bonne étape. Rappelle le natif de Sayabec dans la Matapédia. Un soir, quatre personnes du personnel de soutien m'ont levé pour que j'essaie de me tenir debout. J'étais mou comme de la guenille. Je n'ai même pas marché. Ce sont eux qui m'ont soutenu. Sauf que mon cerveau a enregistré que j'étais capable d'avancer un peu. Dans les semaines qui ont suivi, Maxime vivait comme un chat. Il dormait plus de 20 heures par jour et ne se réveillait que pour manger de la purée. Puis, il a commencé à progresser. Il y a d'abord eu la marche en marchette, puis la marche en chambranlant, suivie de la marche un peu plus correcte. Toutes les fois que je rentrais dans un cabinet de médecin, je voyais leur face. Je voyais qu'ils étaient vraiment stupéfaits de me voir arriver en marchant. Quelques 6 mois après son accident, il prenait part à une course de 1 km à Rimouski. C'était tellement dur, juste m'entraîner pour 1 km, se souvient-il. Je n'en reviens pas que j'ai réussi. Marathonien toute sa vie. Concrètement, Maxime Dastou a passé 2 ou 3 ans en réadaptation intensive. Ça a pris du temps avant que j'accepte que j'avais le cou soudé, que mon côté droit était plus faible. Il l'est encore à ce jour. En 2020, 3 ans après son accident, l'homme, aujourd'hui âgé de 34 ans, a acheté une fourgonnette, ce qui lui a permis de commencer à voyager. Et 2 ans plus tard, en 2022, il a vendu sa maison afin d'y vivre à temps plein. La vanne m'apportait juste un plus grand bonheur. J'ouvre la porte et je découvre chaque matin un paysage nouveau. Maxime a commencé à courir plus sérieusement il y a un an et demi, en 2023. Il revenait d'un voyage de 2 mois en Europe. Je n'étais pas en forme, pas en santé. Et je me suis dit, c'est assez. J'ai eu une première chance, je ne veux pas me maganer la vie non plus. Il a couru 10 kilomètres, puis 11, puis 15. En avril 2024, il a fait son premier demi-marathon. En septembre 2024, son premier marathon à Rimouski. C'est le plus bel accomplissement de ma vie, sans contredit. Le marathon, pour moi, c'était un mur infranchissable. Je suis conscient que je peux mourir demain, que les soudures dans mon cou peuvent lâcher. J'en suis conscient chaque jour. J'ai des douleurs et j'ai un suivi chaque année pour voir s'il n'y a rien de détaché. Je me dis que ce marathon-là, peu importe ce qui m'arrive après, on ne pourra jamais me l'enlever. Je vais être marathonien toute ma vie. Son histoire ne s'arrête pas là. Il y a quelques semaines à peine, Maxime a participé à l'Ultra Trail Gaspésia 55, une expérience qu'il a adorée. Le 5 juillet, il a été du Québec Mega Trail. Il a couru 80 km dans les sentiers de Charlevoix. Depuis des mois, il s'est préparé en parcourant de 100 à 150 km par semaine. Courir dans la boue, éviter les obstacles à chaque pas, c'est de la pleine conscience, mais à un niveau supérieur, dit-il. Les odeurs, le vent, tout ça est condensé dans la course en trail. Aujourd'hui, Maxime Dastou perçoit son accident à la fois comme la pire et la meilleure chose qui pouvait lui arriver. La pire, parce qu'il vit avec de nombreuses limitations, trous de mémoire, difficultés d'organisation, incapacité à bouger sa tête de gauche à droite. La meilleure, parce qu'elle lui a permis de voir la vie autrement. Il se souvient, dans les semaines qui ont suivi le 20 décembre 2017, avoir longtemps cherché qui il était. Lui qui avait été un chansonnier de carrière, il faisait 200 spectacles par année à travers le Québec, et qui, soudainement, se retrouvait cloué à un lit d'hôpital. Si je n'étais plus un chansonnier qui buvait, qui faisait le tour du Québec? J'étais qui? Sans musique, c'était qui Maxime Dastou? Il a acheté des plantes, parcouru les friperies, à la recherche d'une passion. Je me disais, non, ce n'est pas ça qui me rend heureux. J'ai creusé plus profond. Je ne dirais pas que je suis un maître du bonheur. Tous les jours, j'en apprends sur moi. Mais oui, j'ai le bonheur facile. Maxime a une urgence de vivre. Il donne des conférences. Il publiera bientôt une nouvelle chanson. Il profite de l'instant présent comme jamais auparavant. Il s'arrête pour cueillir des fleurs et ramasser des plumes d'oiseaux, pour enregistrer des sons dans la nature. Le vivant, il est partout maintenant. Longtemps, la musique a été pour lui une raison de vivre. Aujourd'hui, c'est la course qui le rend le plus heureux au monde, même s'il l'aperçoit surtout comme un pont pour ce qui va s'en venir plus tard. J'ai vraiment l'impression que je suis capable d'accomplir de grandes choses. Je ne suis pas en train de dire que je suis un être distinct, zéro, mais je pense que si hier j'étais incapable de marcher et qu'aujourd'hui je cours des marathons et des ultramarathons, sky is the limit. Il n'y a rien d'impossible. C'était « Du lit d'hôpital aux ultramarathons », un texte de Catherine Harvey-Pinard, paru le 5 juillet 2025 dans La Presse.
L'amitié véritable, un texte d'Arlan Ngepi paru le 1er juillet 2025 dans Le Franco. Depuis la nuit des temps, les hommes entretiennent différentes relations qui les relient les uns aux autres. Lors des différents chapitres de sa vie, l'homme passe par des moments d'euphorie, de peine, de célébration. Ces expériences sont celles qui lui permettent de distinguer les relations éphémères de celles qui marquent une vie entière. Je m'appelle Arlan Ngepi, j'ai 17 ans et j'ai terminé mon secondaire à l'école Maurice-Lavallée. Je suis une personne qui éprouve un intérêt particulier pour l'écriture. Écrire me permet de mettre des mots sur mes pensées, mes idées et mes émotions. Manipuler, jongler et danser avec les mots me fait toujours ressentir une profonde extase. Grâce à cet amour pour l'écriture, j'ai décidé de participer au concours national de rédaction. Dans le cadre de ce concours, j'ai écrit un texte qui répondait à la question « Qu'est-ce qui fait un bon ami ou une bonne amie ?» Rédiger ce texte a été un réel plaisir pour moi, car cela a été une occasion d'exprimer, à l'aide de ma plume, mon humble perception de ce qu'est l'amitié véritable. Même si ma rédaction n'a point reçu les honneurs du podium, j'espère tout de même que vous prendrez du plaisir à la lire et qu'elle ouvrira des fenêtres nouvelles dans vos esprits. Parmi ces relations, il y a l'amitié, qui est l'une des plus importantes. L'amitié est un lien indispensable dans la vie de chaque humain. Elle est parfois un moyen d'échapper à la dure réalité de la vie, car elle est une source de joie et de gaieté. Un bon ami est non seulement celui qui nous accompagne dans les grandes et petites étapes de notre vie, mais aussi celui qui est là pour nous écouter et nous réconforter quand on en a besoin. Il est également un guide qui nous aide à prendre des décisions responsables, et il est aussi là pour nous empêcher de commettre des erreurs. Dans les paragraphes qui suivent, je prendrai la peine de vous expliquer de manière approfondie et explicite la façon dont je perçois un bon ami. Premièrement, je suis une personne qui a eu de nombreux amis tout au long de ma vie. De ce fait, j'ai pu accumuler assez d'expérience en ce qui concerne l'amitié pour vous affirmer avec assurance que l'une des qualités majeures d'un véritable ami est la bienveillance. C'est une vertu qui se manifeste à travers la gentillesse, la compréhension et la bonté. Elle est l'essence même de l'amitié véritable. Un ami bienveillant se distingue par sa capacité à percevoir les besoins et les émotions d'autrui. Il est attentionné et fait preuve d'un dévouement sans réserve pour le bonheur de son compagnon. J'ai moi-même le privilège d'avoir un tel ami dans ma vie. Il a le cœur sur la main et est toujours présent pour me soutenir. Lorsque je traverse des moments difficiles, de doute ou de peur, il me réconforte émotionnellement. Un été, il m'a fallu faire face à la trahison de la fille que j'aimais. Ce fut un chapitre très douloureux de ma vie. Je me sentais profondément abattu, dépité et désemparé. Chaque journée était un calvaire et je m'enfermais dans ma chambre, refusant de mettre le bout de mon nez dehors. Cependant, dans ce moment de tumulte, mon ami fit preuve d'une bienveillance qui alla bien au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. Il me rendait des visites quotidiennes, refusant de me laisser sombrer dans la déréliction. Il m'écoutait déverser ma peine sans jamais me juger, et, tel un homme de sagesse, il me prodiguait des conseils avisés. Il me motivait énormément, m'encourageait à sortir pour prendre de l'air et m'entraînait dans des activités qui, peu à peu, rendaient mes journées sombres plus colorées. Grâce à lui, j'ai non seulement surmonté mon chagrin d'amour, mais j'ai également passé un été splendide. La bienveillance dont il fit preuve me toucha profondément et je lui en serai éternellement reconnaissant. Pour poursuivre, Je pense que, dans ce monde où certaines personnes ont tendance à juger les autres en se basant sur des critères superficiels, un véritable ami se distingue par sa capacité à aller bien au-delà du paraître. Peu importe la valeur de vos vêtements, votre situation financière ou même votre apparence physique, un ami sincère sera toujours intéressé par votre nature profonde. Personnellement, lorsque je me fais de nouveaux amis, ma priorité est de connaître les principes, les valeurs et les habitudes de la personne avec qui je cherche à être ami. Je ne me soucie guère de la manière dont cette personne est vêtue ou de son apparence physique, car tout cela n'est qu'une bagatelle si la beauté de l'âme n'y est pas. Selon moi, un véritable ami devrait incarner des valeurs morales admirables et une éthique exemplaire, car ces vertus sont indubitablement celles qui constituent la vraie beauté chez une personne. En conclusion, j'aimerais dire qu'un véritable ami est une personne en qui l'on peut faire confiance sans craindre une trahison de sa part. L'ami sincère incarne des vertus humaines qui lui permettent de reconnaître et d'apprécier la véritable valeur et beauté des personnes. Il est un être qui nous accompagne dans les étapes de notre vie et qui est prêt à nous soutenir dans des moments de vulnérabilité. Ce genre d'ami ne juge pas, mais apporte plutôt des conseils réfléchis et sages. Ainsi, il est essentiel de se demander comment pouvons-nous cultiver les valeurs d'un bon ami dans notre vie afin de bâtir des amitiés plus solides. C'était « L'amitié véritable », un texte d'Arlan Nguipi paru le 1er juillet 2025 dans le Franco.
Le cannabis augmenterait les risques de maladies cardiovasculaires. Un texte de Mathieu Perrault, paru le 7 juillet 2025 dans La Presse. Le THC, l'ingrédient actif de la marijuana, a des effets négatifs sur les artères, selon une nouvelle étude californienne. Cela pourrait augmenter le risque de crise cardiaque et d'AVC. Il est possible que le THC affecte les récepteurs cannabinoïdes sur des cellules des vaisseaux sanguins, dit Matt Springer, un biologiste spécialiste de médecine cardiovasculaire à l'Université de Californie à San Francisco, qui est l'auteur principal de l'étude publiée en mai 2025 dans la revue JAMA Cardiology. Les cellules endothéliales sont responsables du tonus des vaisseaux sanguins. Chez les 55 participants de l'étude californienne, ce tonus était autant altéré chez ceux qui fumaient du cannabis et chez ceux qui mangeaient des bonbons de THC. Plus précisément, la dilatation de l'artère quand le flux sanguin augmentait était moins rapide que chez les participants qui ne fumaient ni ne mangeaient du THC. Cette diminution de la dilatation médiée par le flux, FMD, est l'une des principales mesures de l'artériosclérose qu'entraîne le tabagisme. L'atteinte du FMD chez les fumeurs et les mangeurs de cannabis était semblable à ce qui survient chez les fumeurs de cigarettes, selon M. Springer. 18% proportion de Québécois qui consommaient du cannabis en 2024. Elle était de 14% en 2018. Source INSPQ. Ces résultats sont très surprenants, explique Caroline Baglol, une chercheuse de l'Université McGill qui vient de publier deux études sur les impacts du vapotage de THC sur la santé. Elle note que l'impact direct du THC par rapport à sa consommation par combustion ou par vapotage a été peu étudié. La dernière publication importante à ce sujet qu'elle a retracée est une étude américano-suisse datant de 2009. Les chercheurs de San Francisco ont aussi étudié deux autres variables cardiovasculaires. La production d'un composé chimique responsable de la dilatation des vaisseaux sanguins, l'oxyde nitrique, NO, et la vitesse à laquelle le sang se propage dans les artères. Pour ce qui est du NO, les effets négatifs du THC ne se retrouvent que chez les fumeurs de cannabis, pas chez ceux qui mangent des bonbons de THC. Et il n'y a pas d'effet négatif du THC sur la vitesse du sang, contrairement à ce qui se voit chez les fumeurs de cigarettes. Ils n'ont pas, par ailleurs, regardé l'effet des bonbons de CBD, une autre molécule du cannabis sur la santé cardiovasculaire. Vapotage et cancer. Caroline Baglol vient de publier dans les revues Cell Biology and Toxicology and the American Journal of Physiology, Lung Cellular and Molecular Physiology, deux études sur les effets de certaines molécules produites par le vapotage et la combustion du cannabis sur des cellules humaines. Elles montrent qu'il pourrait y avoir des effets cancérigènes et nocifs pour la santé pulmonaire. C'était « Le cannabis augmenterait les risques de maladies cardiovasculaires », un texte de Mathieu Perrault, paru le 7 juillet 2025 dans La Presse.
Les tensions s'aggravent au cégep Vanier après un rapport de Québec, un texte de Maura Forrest, paru le 3 juillet 2025 dans Le Devoir. Une récente enquête du gouvernement du Québec sur le climat dans deux cégeps montréalais pourrait avoir eu un effet dissuasif sur les enseignants, selon le directeur général de l'un d'eux. Benoît Morin rapporte que l'enquête a exacerbé les tensions au cégep Vanier, qui est sous surveillance depuis l'automne dernier, en raison de plaintes selon lesquelles la guerre entre Israël et le Hamas aurait créé un climat d'insécurité sur le campus. Je crois que l'enquête a soulevé des questions qui ont créé un environnement dans lequel les enseignants pourraient douter de ce qu'ils enseigneront, a-t-il raconté en entrevue. Et cela peut en soi affecter la quantité et la qualité de la liberté académique que nous observons dans notre environnement. Le ministère de l'Enseignement supérieur du Québec a publié la semaine dernière les résultats de son enquête sur les collèges Vanier et Dawson, qui a mis en lumière plusieurs problèmes, allant de la vente de kéfir sur le campus aux cours de langue axés sur la culture palestinienne, qui, selon lui, crée des tensions entre étudiants et enseignants. M. Morin et Diane Gauvin, directrice générale du Collège Dawson, émettent maintenant des doutes quant à certaines conclusions du rapport, notamment sur le fait que les deux établissements ne respectent pas pleinement les règles de laïcité de la province. Les enquêteurs ont affirmé que la présence de salles de prière dans les collèges pourrait favoriser la radicalisation et les divisions entre les étudiants. Ils ont également remis en question d'autres accommodements religieux dans les établissements, notamment les absences pour les fêtes religieuses. Le directeur général du Collège Vanier a déclaré n'avoir constaté aucune preuve de radicalisation dans son établissement, qui dispose d'une salle de prière pour les étudiants musulmans depuis plus de deux décennies. 80 langues sont parlées à Vanier, ce qui est une grande force, a-t-il souligné. Vanier a été à l'avant-garde de l'adaptation à l'évolution de notre société. Dans un communiqué, Mme Gauvin a indiqué que le Collège Dawson dispose de salles de prière pour les étudiants musulmans, juifs et chrétiens, ce qui, selon elle, ne contrevient pas à la loi québécoise sur la laïcité. Le Québec interdit aux écoles primaires et secondaires de mettre à disposition des locaux pour la prière, mais cette règle ne s'applique pas aux cégeps et aux universités. La directrice a ajouté que plus de 98% des accommodements religieux accordés par le Collège Dawson concernent des étudiants juifs. L'enquête gouvernementale a été lancée fin novembre, peu après une grève étudiante pro-palestinienne dans plusieurs établissements post-secondaires de Montréal, au cours de laquelle le Collège Dawson a annulé des cours et fermé son campus afin de protéger le bien-être des étudiants. Question de liberté académique. L'enquête a permis de mettre en évidence plusieurs enjeux visant notamment la liberté académique, les associations étudiantes et les accommodements religieux. Elle souligne ainsi la présence de tensions et de conflits entre différents groupes d'étudiants et entre les enseignants, alimentée par l'accumulation de plusieurs facteurs. a pointé le cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur, Pascale Déry, dans un communiqué. J'appelle tous les acteurs concernés à prendre les recommandations au sérieux et à travailler avec nous afin de rétablir un climat sain et respectueux, a écrit la ministre dans le communiqué. M. Morin n'a pas nié l'existence de tensions à Vanier concernant le conflit au Moyen-Orient. Il a toutefois indiqué que l'intervention du gouvernement avait été une surprise. L'enquête elle-même a mis en lumière certaines tensions, et celles-ci pourraient avoir été exacerbées par tout ce qui l'entoure, a-t-il avancé. Dans l'ensemble, Vanier est un endroit formidable, c'est un excellent collège. Le rapport se concentrait en partie sur les groupes étudiants pro-palestiniens et indiquait que les collèges n'avaient pas le pouvoir d'intervenir dans les activités des clubs étudiants. Il recommandait également au gouvernement d'adopter une nouvelle loi pour encadrer la liberté académique dans le système collégial. Les enquêteurs ont constaté que les collèges ont peu de contrôle sur le contenu des cours et ont spécifiquement pointé du doigt deux cours à Dawson et à Vanier, axés sur la culture palestinienne, bien qu'ils soient présentés comme des cours de langue. Ils ont recommandé de revoir les attentes relatives aux cours de langue. La liberté académique ne justifie pas le militantisme ni la promotion d'idéologie sous quelque forme que ce soit, peut-on lire dans le rapport. Mais Benoît Morin a soutenu qu'il fallait faire confiance au personnel enseignant. L'une des pires façons de restreindre la liberté académique est probablement de créer un environnement dans lequel les enseignants s'auto-censurent, a-t-il averti. Diane Gauvin a également émis des doutes quant à la nécessité d'un contrôle accru du contenu des cours. « Je crois qu'il y a un manque de compréhension de l'éducation basée sur les compétences et je n'ai connaissance d'aucune difficulté à ce que les cours fassent atteindre ces compétences », a-t-elle déclaré. M. Morin a indiqué avoir reçu le rapport une demi-heure avant sa publication et après la publication d'articles de presse sur ses conclusions. Il s'est toutefois dit heureux que le rapport reconnaisse l'engagement du collège à offrir un environnement sécuritaire aux étudiants. Le fait que le collège Vanier ait été disculpé dans le rapport montre que l'enquête a peut-être suscité plus de questions et d'inquiétudes qu'autre chose, a-t-il ajouté. C'était « Les tensions s'aggravent au cégep Vanier après un rapport de Québec », un texte de Maura Forrest paru le 3 juillet 2025 dans Le Devoir.